Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, récits et souvenirs de la Colima, de Varlam Chalamov. Le fond du désespoir avec la mort est la seule perspective et parfois un dernier soubresaut de colère. Voilà ce que nous propose Varlam Chalamov dans Colima. Son atroce suite de récits et souvenirs de la vie des camps staliniens, une centaine de vignettes qui, sans emphase, sans grands mots, sans émotion et sans psychologie, font le tour de la civilisation contre-ancestionnaire. Chalamov considérait les camps de la Colima, avec leurs conditions climatiques sévères et le travail forcé des prisonniers, comme l'incarnation du mal absolu. Souvenir de la Colima est un cycle de textes écrit par Chalamov dans les années 1970, soit une vingtaine d'années après sa libération des camps et son retour. Ils sont complétés par des évocations de ses contemporains, écrivains ou poètes, comme Boris Pasternak, qui écrit en 1957 « Le docteur Jivago », relatant la vie d'un homme juste et raisonnable qui lutte pour vivre et survivre dans l'enfer des guerres et des révolutions du début du XXe siècle. Ses souvenirs transmettent la réalité par fragments et s'interrogent avant tout sur ce que peut la langue et ce qu'est la mémoire. Varlam Tikhonovitch Chalamov est né le 5 juin 1907 à Moscou. Il vit son adolescence dans la ville du Grand Nord russe, Vologda. Ses parents ont eu 8 enfants, dont 3 morts-nés. Il est le cadet des 5 enfants qui ont survécu, et son frère aîné Valérie a 13 ans de plus que lui. La forte personnalité de son père, prêtre orthodoxe, responsable de la paroisse de la cathédrale Sainte-Sophie de Vologda, contre laquelle Varlam se dresse, forge son caractère qui le soutiendra pendant sa vie au bagne. La ville de Vologda, dont le Kremlin de Vologda a été construit sur ordre d'Ivan le Terrible, a toujours servi de lieu de relégation. La ville est aussi le point de départ vers des lieux d'enfermement plus au nord ou à l'est de la Russie. Varlam Chalamov ne peut poursuivre ses études universitaires à Vologda. Il doit partir pour Moscou, où il réussit en 1923 le concours d'entrée à la faculté de droit de l'Université d'État de Moscou. Pour payer ses études à l'université, il travaille dans une tannerie. Il entre dans un mouvement trotskiste et conteste le pouvoir de Staline, en particulier en diffusant de manière clandestine les lettres au congrès du parti, appelées ultérieurement le « testament de Lénine ». Ces lettres de Lénine au congrès mettent, entre autres, clairement en garde contre une éventuelle succession de Staline à la tête du Parti communiste. Arrêté le 19 février 1929, il est envoyé pour 3 ans dans un camp de travail à la Vichera, dans l'Oural central. Chalamov revient à Moscou en 1932 et y travaille comme journaliste et essayiste. Les grandes purges le renvoient au goulag. Le 12 janvier 1937, Chalamov est arrêté pour activité trotskiste contre-révolutionnaire, condamné à 5 ans et envoyé dans la Colima, région à l'extrême est de l'URSS, au-dessus du cercle polaire arctique, connu sous le nom de « Pays de la mort blanche ». Son dossier pénitentiaire indique qu'il doit être soumis aux travaux les plus durs, ceci dans le but de le faire mourir. Maintes fois, Chalamov souhaite la mort, littéralement affamé du fait de rations insuffisantes, battu par les détenus de droit commun ou les gardes, et surtout du fait de journées de travail de plus de 16 heures dans les mines aurifères. Le climat polaire implique de travailler parfois par moins 50 degrés. Mais, par miracle, il survit. En 1943, toujours prisonnier, il écope d'une nouvelle condamnation de 10 ans cette fois, et toujours à la Colima pour agitation antisoviétique. La mort de Staline en mars 1953 change la donne pour les prisonniers des camps. Les morts sont réhabilités. Beaucoup de vivants sont remis en liberté. Chalamov peut quitter la Kolyma 8 mois après la mort de Staline en novembre 1953. Il retrouve son épouse Galina Ignatyevna Gutz, qu'il a attendue tant d'années à Moscou depuis 1937, et leur fille Lena. Mais il rompt avec elle. Sa vie ne sera plus que travail de la mémoire et transcription dans ses récits. Il sera réhabilité en 1956. Les récits de la Kolyma paraissent pour la première fois en 1966. Et le livre paraît en URSS en 1987. La mort de Chalamov est une métaphore de sa vie. Pauvre, affaibli, malade, il meurt dans un hôpital psychiatrique moscovite le 17 janvier 1982. Il est enterré au cimetière de Konetsovo de Moscou. Avec Solzhenitsyn, Chalamov, même s'il ne connaît pas une célébrité comparable, est considéré comme le plus grand écrivain des camps. Les deux écrivains se sont rencontrés en 1962. Leur correspondance trahissait leur admiration mutuelle et ils tissaient des liens d'amitié. Chalamov a salué une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn, mais cette amitié s'est détériorée. Solzhenitsyn est né en 1918, décédé en 2008, condamné aux travaux forcés en 1945 pour activités contre-révolutionnaires, prix Nobel de littérature en 1970, expulsé de son pays en 1974 après avoir publié L'archipel du Goulag. La mémoire. L'imperfection de l'instrument que l'on appelle mémoire est pour moi une autre source d'inquiétude. Beaucoup de détails parmi les plus caractéristiques sont inévitablement oubliés, j'écris 20 ans après. Trop de choses sont perdues sans retour, presque sans laisser de traces. Dans le paysage, les intérieurs et surtout dans la suite de mes sensations. Même le ton de la narration ne peut pas être ce qu'il devrait. L'être humain se rappelle plus facilement les bonnes choses, le bien, et oublie plus aisément le mal. Les mauvais souvenirs oppressent, et l'art de vivre, si tant est que cela existe, est essentiellement l'art d'oublier. Je n'ai pris aucune note, je ne le pouvais pas. Mon seul problème était de survivre. La malnutrition entraînait un mauvais approvisionnement des cellules du cerveau, et la mémoire s'affaiblissait inévitablement pour des raisons purement physiques. Elle n'a pas tout retenu, évidemment. De plus, le souvenir est une tentative de revivre le passé, et chaque mois, chaque année de plus affaiblissent inévitablement les impressions, les sensations, et changent l'appréciation qu'on en a. Une pensée s'est souvent imposée à mon esprit. La distance intellectuelle entre ce qu'on appelle un homme simple et, disons, le philosophe Kant est beaucoup plus grande que celle qui se sépare ce même homme simple de son cheval de trait. Dans l'éveil de la glèbe, Knut Hamsun nous a laissé une tentative géniale de montrer la psychologie d'un simple paysan qui vit loin de la civilisation, de décrire ses intérêts, ses actes, ses motivations. Je ne connais rien de semblable dans la littérature mondiale. À part lui, tous les écrivains, avec une insistance accablante, affublent leurs héros d'une psychologie bien plus complexe, éloignée de la réalité. Il y a en l'homme beaucoup plus d'animalité que nous le pensons. Il est beaucoup plus primitif que nous croyons. Et même, quand il est instruit, il utilise cette arme pour satisfaire ses instincts primaires. Dans un environnement où la civilisation millénaire tombe comme une peau morte et où l'être biologique animal remonte à la surface dans toute sa nudité, les restes de sa culture lui servent à lutter pour la vie dans sa forme immédiate et primitive. Lutte acharnée et brutale. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.